n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mercredi 15 mars. L'intersyndicale demande le retrait dès maintenant du projet de loi. Nos invités représentent la CFDT, la FSU et la CGT Finances Publiques de l'Ain.
Reportage dans les coulisses de l'AVEMA, l'association d'aide aux victimes de l'Ain ouvrait ses portes dans le cadre de la journée des droits des femmes. L'occasion de participer à des ateliers d'autodéfense et de bien-être.
Et tout de suite, votre actualité en bref.
Bourque, en bref.
Nouvelle mobilisation dans l'Ain et partout en France ce mercredi 15 mars.
Les organisations syndicales appellent à une grève massive à 14h au champ de foire pour mettre fin au projet de réforme des retraites. Ils appellent les salariés, les demandeurs d'emploi ou encore les étudiants et les retraités à rejoindre le cortège. Des manifestations sont aussi prévues à Oyonnax à 9h30 ou encore à Saint-Genis-Pouilly dans le pays de Gex à 10h. C'est la huitième mobilisation organisée depuis l'annonce de cette réforme.
Une pièce de théâtre pour parler des violences intrafamiliales.
Les mots bleus de la compagnie de l'Éclair sera jouée ce vendredi 17 mars à Bourg-en-Bresse. La pièce sera suivie d'un débat sur les violences avec des acteurs du département. Cette soirée est organisée par le réseau VIF, Violences intrafamiliales de l'Ain. Ce dernier rassemble Save 01, Le Secours Populaire et Putain de Guerrière. Il est fortement conseillé de réserver, la participation est libre et ça se passe au Vox, rue Paul Pioda à Bourg à 19h.
Ces femmes sont des mamans, mais pas que.
C'est ce que veut montrer l'exposition photo « Être femme ». Vous pouvez la voir jusqu'à ce vendredi 17 mars au centre social Le Plateau, boulevard Paul Bert. D'autres photos sont aussi exposées au magasin studio Hervé, place Caria à Bourg, tout le mois de mars. L'entrée est libre et gratuite et l'association Pesplume 01 est partenaire de ce projet.
Acheter solidaire pour soutenir une communauté Emmaüs.
Nouvelle grande vente à Emmaüs Servaz ce dimanche 19 mars. Vous y trouverez des articles à petit prix, des vêtements, des livres, de la déco ou encore des meubles. C'est de 14h à 18h. À noter que la communauté est toujours présente rue du Stand dans la galerie marchande d'Intermarché. Une boutique éphémère est ouverte jusqu'en juillet. Écoutez notre reportage sur place, diffusé le 6 février, à réécouter sur radio-b.fr. Les ventes permettent de faire vivre la communauté Bourg-Servaz et d'accompagner une trentaine de compagnes et compagnons.
Attention, les zombies arrivent à Bourg-en-Bresse.
Ce mardi 14 mars à 18h au Carré Amiot, des zombies reviennent hanter les rues de Bourg-en-Bresse. À 19h, l'association Altec organise une conférence « Mort et vivant, rencontre avec les véritables zombies ». Ce sera au théâtre de Bourg-en-Bresse. Les deux événements sont gratuits et vous pouvez vous inscrire pour assister à la conférence sur le site www.théâtre-bourg.fr.
Des élèves de l'école Charles Jarrin à Paris.
Du 20 au 24 mars, les classes de CE1 et CM2 vont partir découvrir la capitale. Ils voyageront en TGV depuis Bourg. Au programme, visite des musées du Louvre, d'Orsay, une visite de la Tour Eiffel et du quartier Montmartre. Ils écouteront aussi un concert de France Musique. Ils vont pouvoir réviser leur géographie et leur histoire de France pendant ces sorties. Pour les aider à financer le voyage, ils vendent des torchons réalisés par les élèves devant l'école tous les jours de la semaine à 16h.
Le festival Hérissons-nous est de retour dans l'Ain.
Un festival pour mettre en avant l'art dans les territoires reculés du département. C'est organisé par le collectif Culture Enfance et Jeunesse de l'Ain et c'est jusqu'au 7 mai. De nombreuses performances théâtrales sont organisées un peu partout. Et pour avoir le programme complet, c'est sur la page Facebook Hérissons-nous.
L'invité de Radio B.
Ce vendredi 10 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, a répondu au courrier des syndicats mobilisés contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron l'assure, le gouvernement reste, je le cite, à l'écoute des syndicats pour avancer par le dialogue, trouver des solutions innovantes. Et il insiste sur la nécessité de restaurer un équilibre durable de notre régime de retraite. Emmanuel Macron précise aussi ne pas sous-estimer le mécontentement et les angoisses. Ce mécontentement et ces angoisses, nos invités les entendent au plus près. Ils sont dans la rue depuis la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mercredi 15 mars marquera la 8e journée d'action contre le projet de loi. En studio avec moi deux invités, Marie-Laure Jette-Brevet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de la CFDT Interpro de l'Ain. François Bruchon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire départemental CGT Finances Publiques. Et par téléphone, Pascal Baudet, bonjour.
Bonjour.
De la FSU de l'Ain. La FSU, c'est la première fédération syndicale en France de l'enseignement. Une réaction après cette réponse d'Emmanuel Macron ? François Bruchon.
Je pense que le président daigne enfin répondre. C'est bien, c'est un premier pas. Il comprend qu'il y a de la contestation, mais moi, de ce que j'ai entendu, je n'ai pas l'impression qu'il va changer son fusil d'épaule et qu'il va entendre, c'est bien. Écouter les gens qui sont dans la rue, c'est quand même autre chose. Et je voudrais dire quand même à ce sujet-là que ça fait un moment, j'ai une vie syndicale depuis un certain temps. Je pense qu'ils auraient tort de sous-estimer ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on a vu... y compris dans des petites villes, dans des très petites villes, les salariés bougent. Les salariés, les retraités, la jeunesse. Donc, comment tout ça va se terminer, je ne sais pas, mais il faudrait qu'ils écoutent quand même et qu'ils reviennent négocier cette réforme qui est totalement injuste et injustifiable.
Pascal Baudet, vous aussi, votre réaction à cette réponse du président de la République ?
S'il a daigné effectivement répondre à la demande, enfin au courrier des organisations syndicales, c'est quand même un gentil bras d'honneur qu'il nous fait là, parce qu'en fait, la formule est un peu fort, je suis désolé, mais il ne veut pas rencontrer les organisations syndicales. Il botte en touche en disant que ça peut se faire, mais par sa première ministre. Et il parle de dialogue social. Et ça, on l'entend depuis le début, en fait, cette histoire de dialogue social. Mais en fait, il n'y en a pas eu de dialogue social sur cette réforme-là. Il faut arrêter avec ce langage et ce discours. C'est pas que dans cette lettre, d'ailleurs. C'est depuis le début, le gouvernement qui parle de dialogue social sans arrêt. Et en fait, non, il n'y a pas eu de dialogue social avec les organisations syndicales. C'est pas vrai.
Qu'est-ce que cette réforme pourrait changer dans chacun de vos secteurs ? Alors François Bruchon, je rappelle, vous êtes le secrétaire départemental CGT Finances Publiques.
On est l'administration qui subit le plus de suppressions d'emplois depuis 20 ans. On embauche des contractuels maintenant. On embauche plus de contractuels qu'on supprime d'emplois, même en fait. Et d'ailleurs, ça rejoint quelque part l'explication que nous donne le gouvernement de cette réforme, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je peux vous dire que si chez nous, on arrêtait de supprimer des emplois et puis qu'on mettait, qu'on mettait du monde pour s'occuper de la fraude fiscale, je pense qu'on résoudrait une bonne partie du problème. Parce que l'argent, il nous dit qu'il n'y en a pas. Moi, je vais rappeler juste un truc. Pendant la pandémie de Covid, il y a eu le fonds de solidarité aux entreprises, qui était quelque chose. Après, on peut être pour, on peut être contre. Je pense que ça a quand même bien sauvé des entreprises. Ça a sauvé pas mal de monde. Mais je peux vous dire que c'était open bar. C'est-à-dire qu'on a distribué à tout le monde sans regarder. Y compris à des boîtes qui étaient fermées, qui n'avaient plus de chiffre d'affaires depuis 2 ans ou 3 ans. C'était open bar. Et chez nous, vu le nombre qu'on est, ils ont mis tout le monde sur le pont et là, on a lâché de l'argent. Là, il n'y a pas de problème.
Donc, ce que vous dites, c'est que cette réforme des retraites va fragiliser une administration qui est déjà très en difficulté.
Oui, je pense, oui. Oui, de toute façon, la motivation chez nous, les gens pensent qu'à une chose, S'ils peuvent partir, le plus tôt ils peuvent partir, Moi, j'ai même je connais des gens qui n'avaient pas prévu de partir, qui se barrent. Ils n'auront pas leurs annuités, mais tant pis.
Marie-Laure Jette-Brevet.
Moi, je vais prendre ma casquette de secrétaire général des santé sociaux, CFDT santé sociaux, au niveau de l'Ain. Et mon cas personnel, je suis infirmière, j'ai démarré dans la fonction publique hospitalière en janvier 92. Donc, vous voyez, il y a 31 ans. Quand je suis rentrée, mon contrat avec l'État, puisque je suis infirmière pour l'État, il était que je pouvais prendre ma retraite à partir de 55 ans. Aujourd'hui, une infirmière, sa retraite, ça sera à 64 ans. Voilà. Une nouvelle infirmière qui rentre dans la fonction publique hospitalière, elle aura une retraite à 64 ans.
Nous sommes... qu'est-ce que ça fait donc
bah, plus
de
9
passer
ans.
De 55 à 64 pour une infirmière
bah, ça fait plus 9 ans sur une carrière avec des métiers qui ne sont pas pris en compte, par exemple, puisque dans la fonction publique hospitalière, nous n'avons pas de compte, pénibilité. Donc moi qui ai travaillé, par exemple, 17 ans de nuit, ça ne sera pas pris en compte pour bénéficier du compte pénibilité. Et en fait, tout ce qui était dans notre métier, dans la catégorie active, donc qui nous permettait de partir un peu plus tôt, puisque notre métier est difficile, avec des horaires compliqués, une charge de travail importante, aujourd'hui, ça ne sera pas pris en compte pour ce métier-là en particulier. Le métier des aides-soignantes, le métier de celles qu'on appelle les essentielles, en fait, et ben, toutes ces femmes, entre autres, puisque ce sont des métiers particulièrement féminisés, ne seront pas pris en compte et devront travailler 2 ans de plus. Comme on dit aujourd'hui, c'est 2 ans ferme, en fait, pour rien, puisqu'en plus, je ne pense pas que le gouvernement va revoir les fins de carrière et les salaires de fin de carrière. Ça m'étonnerait fortement sur les années à venir.
Je pose la question maintenant donc à Pascal Baudet, de savoir ce que cette réforme pourrait changer dans chacun de vos secteurs. Et je rappelle, Pascal Baudet, que vous êtes de la FSU de l'Ain. Donc la FSU, c'est la première fédération syndicale en France de l'enseignement.
Alors c'est vrai que nous, dans nos métiers, on va dire, spécifiques, on a des exemples qui sont frappants. C'est-à-dire, si on parle par exemple des AESH, les accompagnants pour les élèves en situation de handicap, on en parle beaucoup au niveau syndical parce que ce sont des personnels qui ont un statut relativement précaire et qui ont des temps partiels pour la plupart, des temps partiels imposés et qui donc ont des salaires de 8 à 900 euros à peu près. Voilà. Et ces personnels-là, c'est un métier très féminisé d'ailleurs, les AESH, il n'y en a pas une, qui aura droit aux 1200 euros. C'est dès le départ, on le savait pour ces personnels-là, parce qu'ils n'auront pas une carrière complète et parce que avec des temps partiels, ça ne pourra pas être pris en compte pour ce minimum de 1200 euros. Donc déjà, pour ces personnels-là, on sait que la retraite, ça va être une misère, on va dire. Ensuite, si on veut parler un peu d'autres métiers, le métier enseignant, tout simplement, enseigner jusqu'à 64 ans dans une classe avec des élèves, d'ailleurs, et plus ils sont petits, on va dire, et plus c'est difficile, entre guillemets, hein, ça demande de l'énergie, ça demande une présence. Voilà, je dis pas que c'est plus facile dans les collèges et les lycées, hein, mais voilà, c'est peut-être encore plus difficile en maternelle. Personne ne s'imagine, même chez les plus jeunes, être en capacité d'enseigner jusqu'à 64 ans, et sachant que, voire même au-delà, hein, parce que beaucoup n'auront pas de retraite complète à 64 ans, et il faudra, pour qu'ils n'aient plus de décote, qu'ils aillent jusqu'à 67 ans. Donc ça, c'est inimaginable dans la tête de la plupart des enseignants, quoi. Et c'est pas une question de... Enfin, on peut nous dire tant qu'on veut la durée de vie augmente, etc., etc. C'est tout simplement inimaginable, quoi.
Alors le projet de loi est en ce moment au Sénat après une première lecture à l'Assemblée nationale. Peu de temps après la réponse au syndicat du président de la République, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a annoncé le recours à l'article 44.3 de la Constitution. Alors en clair, il déclenche le vote bloqué. Les sénateurs vont donc devoir voter la totalité du texte ou une partie décidée par le gouvernement. Les amendements et articles ne seront plus votés les uns après les autres. Alors, une réaction sur cette décision, Marie-Laure Jette-Brevet?
Ben, c'est un vrai déni de démocratie. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En fait, le gouvernement propose une loi qui est refusée par l'ensemble, une grande majorité des Français, ne laisse pas le temps des échanges en fait, dans les assemblées législatives qui doivent voter ce texte. Et surtout, et bien encore une fois, on voit que tout ce qui s'appelle le dialogue social ou les échanges, en fait, les propositions qui pourraient être faites par les partis, les différents partis, en fait, ne seront pas entendues. Donc, pour moi, c'est un vrai déni de démocratie.
Alors après, ce samedi 11 mars, la prochaine mobilisation, c'est le mercredi 15 mars. Alors, on a parlé de la réponse du président de la République. On a parlé donc de cette décision du gouvernement de recourir à l'article 44.3 de la Constitution. Est-ce qu'il faut durcir la mobilisation ? François Bruchon.
Moi, ce que j'en retire de ce que j'ai vu ici et de ce que j'entends, ce qui se passe dans les autres départements aussi, c'est qu'il y a une détermination, moi, que j'ai rarement vue. Donc, au bout d'un moment, si les gens, on défile, on montre notre mécontentement de plus en plus nombreux et qu'en face, il ne se passe rien, moi, c'est pas que j'appelle durcir le mouvement. Je pense que ça va se faire naturellement. Après, c'est le risque que prend le gouvernement. D'ailleurs, je rappelle que les organisations syndicales, dans la lettre qu'ils ont fait au président de la République, il y a une petite phrase qui le dit. Qui dit attention, en gros, je ne sais plus les termes exacts, mais bon, ne jouez pas trop avec le feu, quoi. Parce que pour le moment, bon, ça se passe bien, mais bon, après, nous, on ne maîtrise pas tout. Je vous rappelle qu'il y a eu les gilets jaunes il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Voilà, moi, j'ai pas de boule de cristal, mais moi, je pense que le mécontentement est si fort que si rien, si en face, il n'y a aucune écoute, il n'y a rien, aucune négociation, on va dire, parce qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant. Si les politiques s'entêtent à faire ça au mépris de ce que disent les Français, il est possible que ça se durcisse et que ça se passe mal. Moi je ne sais pas.
Et si donc on va jusqu'à ce que ça se passe mal, est-ce que vous pensez qu'au bout d'un moment, avec ces mobilisations, ces grèves ou d'autres actions, le gouvernement pourrait finir par abandonner cette réforme ? Pascal Baudet ?
De toute façon, quoi qu'il arrive, on va dire, à l'Assemblée nationale, au Sénat et donc à l'échelon législatif, là, puisqu'on voit qu'il essaie de passer en force à ce niveau-là aussi, même si la semaine prochaine, donc le 15, mercredi 15 mars, c'est le jour de la commission mixte paritaire, donc qui est censée regrouper des députés et des sénateurs pour valider un texte, quel texte on ne sait pas encore, mais certainement le texte du gouvernement. Même si ce processus allait au bout, on va dire, avec toutes le passage en force qu'il y a eu de la part du gouvernement à plusieurs moments, on voit bien que ça ne va pas s'arrêter. Enfin, je veux dire, la détermination, effectivement, moi, elle est énorme, quoi. Les organisations syndicales ont montré leur unité jusqu'à présent et il n'y a pas de raison que ça change, à mon avis. Et surtout, l'opinion publique, les salariés montrent qu'ils sont déterminés. Donc, même si la loi, elle était votée, je ne vois pas pourquoi le mouvement s'arrêterait. Alors, appeler à durcir le mouvement, on a déjà appelé le 7 mars à mettre le pays à l'arrêt. Je pense que, effectivement, ça, c'est des choses que les salariés vont aussi déterminer par eux-mêmes. Nous, au niveau des organisations syndicales, on a déjà dit qu'il fallait certainement aller plus loin. Ça, il y a quelle forme ça va prendre, on n'appellera pas à la violence non plus, mais on est responsable, je crois qu'on l'a montré jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'est vrai que je ne vois pas pourquoi, parce que mercredi, peut-être, le texte sera définitivement validé, j'en sais rien, on verra. Je ne vois pas pourquoi le mouvement s'arrêterait.
Merci à tous les trois. Donc, Marie-Laure Jette-Brevet, de la CFDT Interpro de l'Ain, François Bruchon, secrétaire départemental CGT Finances Publiques, et par téléphone Pascal Baudet de la FSU de l'Ain. Ce mercredi 15 mars se déroulera partout en France la 8e journée de mobilisation. Ce même jour, le projet de loi arrivera en commission mixte paritaire. Elle est composée de 14 députés et sénateurs. Alors, ils devront trouver un consensus pour trouver un texte à faire voter aux deux chambres cette semaine. Le vote est prévu ce jeudi 16 mars à 9h au Sénat et à 15h à l'Assemblée nationale. Invité de la matinale de France Inter, Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, a affirmé que le gouvernement ne veut pas utiliser le 49.3. Pour rappel, cet article de la Constitution permet au gouvernement d'adopter un projet de loi sans vote. Ce dernier sera adopté si une motion de censure n'est pas votée par l'Assemblée nationale. Dans le cas inverse, le gouvernement est renversé et le texte rejeté.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100, 120 ans.
En reportage avec Radio B.
La semaine dernière, nous avions reçu la directrice adjointe de l'AVEMA. Cette semaine, nous allons dans les coulisses de cette structure.
Pour rappel, l'AVEMA est une association de soutien aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Le 8 mars, dans le cadre de la Journée mondiale pour les droits des femmes, les locaux étaient ouverts au public pour découvrir les ateliers proposés aux personnes suivies par l'association. C'était l'occasion pour des femmes de s'essayer à l'autodéfense et de se laisser aller avec un atelier d'art ou encore un moment bien-être avec une socio-esthéticienne.
Donc, l'AVEMA, en fait, c'est une association d'aide aux victimes. On appartient à la Fédération France Victimes. On a une association dans chaque département. Et donc, notre association, elle est composée de plusieurs professionnels différents, c'est-à-dire qu'on a des psychologues, des éducateurs, des juristes, des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, une socio-esthéticienne, enfin, voilà. Donc, vraiment une équipe pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, pour cette Journée internationale des droits de la femme, on a prévu différents ateliers, c'est-à-dire que dans la pièce juste derrière, vous avez ce qu'on appelle la Rage Room. Donc c'est une pièce avec des collègues, notamment des collègues qui sont formés à la psychobox. On a aussi un psychologue qui est présent, où on va apprendre à se défendre.
Je suis là. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Je m'appelle donc Jean-Pascal, je suis accompagné de Philippe,
psychologue sur la
psychologue, voilà. Moi, je suis dans mon métier directeur d'AVEMA, mais je suis aussi prof de kickboxing, de boxe de rue, de boxe thaï, voilà, des petites choses comme ça. Donc, je suis toujours intéressé par tout ce qui touche le corps. Tout ce qui touche le corps, comment le corps se met en mouvement. À l'AVEMA, on a créé des ateliers, qui étaient des ateliers pour apprendre aux femmes à se sortir d'une situation d'agression, à comment avoir des outils. Des outils. Quand on a un monsieur violent ou un épisode agressif, pour pouvoir un petit peu s'en sortir au mieux. L'objectif premier, c'est rester en vie. C'est ça, rester en vie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des statistiques en matière d'agression, notamment sur les agressions à l'arme blanche, qui sont de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui ont des lames, qui ont des couteaux. Et aujourd'hui, les couteaux sont malheureusement monnaie courante dans toutes les agressions. Et face à un couteau, vous avez beau être un expert en art martial, il n'y a rien à faire. Vous vous ferez piquer de toute façon. C'est la première des règles. C'est de courir, c'est de vous cacher, c'est d'éviter à tout prix le conflit. Mais on réapprend aux femmes à marcher. On apprend aux femmes à marcher, voilà comment je suis. Voilà une position assertive, c'est une position où je suis sûr de moi, je suis bien planté sur mes appuis, je suis bien là, et je donne dans le signal à tout le monde que ça ne va pas être un petit peu facile. Première chose. Deuxième chose, on va aussi leur expliquer qu'il y a des distances à respecter quand l'autre y vient. Et que ces distances-là, il faut absolument interdire à l'autre de rentrer dedans. Vous voyez, la madame, elle me laisse rentrer, elle ne me connaît pas, et pourtant elle m'a laissé rentrer dans sa zone, qui est une zone où je peux tout faire. Là. Je peux l'embrasser, je peux la frapper, je peux lui casser la tête, je peux tout faire parce qu'elle m'a laissé rentrer dans sa zone. Donc la première des choses aussi, quand vous êtes dans cette zone-là, ne pas laisser l'autre rentrer dans cette zone. Et votre zone de protection, c'est la main. Et puis, à un moment donné, s'il devient trop intrusif, s'il vient trop, je lui monte ma paume de main. J'apaise et je suis ici, je travaille tranquille, je discute, je bouge pas et je vais, bien évidemment, mettre des mots pour faire baisser la tension, pour que l'autre retrouve un petit peu son humanité. Et puis, à un moment donné, quand on a épuisé le champ de la parole, le champ de la négociation, le champ de l'expression, hein, bah, on va apprendre à se protéger, et puis peut-être de temps en temps à mettre un petit peu des coups. Donc dans la protection un petit peu qui est la nôtre, moi j'appelle ça ma protection hérisson, c'est que j'ai toujours mes mains ici, voilà, je suis toujours ici, vous allez me mettre une grande claque de la main droite, s'il vous plaît, la main droite, parce que vous êtes droitière normalement. Moi je suis toujours, c'est ça, ma protection c'est celle-ci, je suis ici, je suis là. Donc on va apprendre un petit peu tout doucement sur des petits jeux de rôle, à se frapper tranquillement sur les chemins et à trouver les bonnes positions. Voilà, des choses tout simples. Et puis après, dans les exercices qui sont les nôtres, venez, madame, on passe là au copain, au mannequin. Allez vite, bonne claque. C'est pas mal. Dans la claque, toujours les doigts bien fermés. Les doigts bien fermés pour ne pas vous péter un pouce. Okay. Et on va bien lui faire péter sur le nez, sur les parties molles, sur le menton, sur les joues, sur les yeux. Voilà. Refaites un petit coup. C'est pas mal. Celle-là, vous me la mettez dans le nez, vous me pétez le nez. Hein. Vous me pétez le nez. Voilà. Et on va travailler là-dessus, on va travailler sur la gorge, on va travailler sur les petites choses qui nous permettent aussi d'avoir des éléments. Ça, c'est des idées des ateliers. Et puis, avec aussi des réflexions qu'on fait sur des petits objets de la vie. Petits objets tout simples pour aider à se défendre. Une revue. Une revue. Là. Casse la tête avec ça. D'accord ? Mes clés, je m'en fous sur les clés. Je vais m'en servir avec une clé qui dépasse pour trancher. Pas s'enfiler les clés en faire un peu américain, trancher avec les clés.
Oui, c'est vraiment plusieurs séances avec l'idée de vraiment pouvoir nommer ce que ça fait vivre, des fois ce à quoi ça nous ramène, parce que des fois ça peut nous ramener à des souvenirs, à des choses où on n'a pas pu s'en sortir, où on n'a pas su faire, et c'est comment bah, du coup on se réapproprie quelque chose de soi, du sujet, c'est ce que vous disiez Jean-Pascal. Et après des fois ça permet aussi de se dire, voilà, il y a des choses à remettre en mouvement en soi. Alors il y a la technique, et puis il y a la possibilité de mettre des mots sur tout ce que ça fait vivre. Sur le fait de l'intrusion, sur la question de la limite, sur comment on est au clair avec soi pour pouvoir utiliser la technique.
Pour peut-être descendre un peu en intensité, on a un espace plutôt créatif. L'idée, c'est de pouvoir laisser une trace de votre passage ici. Il y a une grande toile avec un côté plus artistique.
Donc voilà, vous pouvez faire votre petite griffe. Alors là, on a des signatures, mais vous pouvez faire un dessin.
Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous faites un papillon ?
Le papillon, c'est le symbole de la métamorphose. Donc voilà, quand on est une femme, qu'on a connu des choses un peu difficiles, on a besoin de sortir de sa chrysalide.
Et après cet atelier créatif, nous pouvions aller à la rencontre d'Émilie, socio-esthéticienne. Elle proposait plusieurs soins pour cette journée du 8 mars.
Je m'appelle Émilie, j'ai une formation en esthétique et je fais des ateliers de groupe et ce matin pour la journée internationale des droits de la femme en individuel sur un moment bien-être à l'AVEMA. Alors la socio-esthétique, c'est utiliser le médium de l'esthétisme. Alors ça pourrait être une beauté des mains, comme de la détente, relaxation ou un atelier à faire soi-même pour valoriser la personne, avoir du temps pour elle, travailler sur l'estime de soi.
Et donc là, avec les personnes que vous avez vues ce matin, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a débloqué des choses, vous sentez ?
Alors, chaque personne est différente quand on est sur un atelier individuel ou de groupe. Il y en a qui ne veulent pas parler. Cependant, les personnes que j'ai pu recevoir ce matin ont pris le temps de se détendre sur un moment massage des pieds et la parole s'est libérée derrière lors de la pose de vernis. Souvent, les femmes qui peuvent être victimes, par exemple, de violences intrafamiliales et conjugales sont dans un tunnel, n'ont pas forcément de temps pour elles et pensent avant tout, alors ça pourrait être les enfants, les procédures ou le travail. Et c'est une parenthèse dans la vie qui peut être un petit peu mouvementée, un moment de détente pour souffler et prendre conscience de leurs valeurs.
Et pour en savoir plus sur l'AVEMA, vous pouvez écouter notre podcast du 6 mars avec l'interview de la directrice adjointe. C'est sur www.radio-b.fr, rubrique « À vous les Burgiens ».
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. En attendant, belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.